C'est une petite sirène qui vivait au fond de la mer avec sa grand-mère, son papa qui était veuf et ses 5 sœurs. Alors, elle aimait bien que sa grand-mère lui parle des hommes sur la terre. Alors, sa grand-mère lui dit, quand tu auras 15 ans, tu pourras monter à la surface des eaux. Et comme ses sœurs et elle ont un an de décalage, ça fait qu'elles montent l'une après l'autre. Alors, c'est au tour de la petite sirène. Elle monte à la surface de l'eau. Elle voit un bateau. Elle s'en approche. Et chaque fois qu'une vague la monte, elle voit ce qui se passe par le hublot. Et elle voit un prince qu'on fêtait son anniversaire. Alors, ce jour-là, il était très joli. Et tout d'un coup, arrive une tempête. Le bateau coule et le prince tombe du bateau. Alors, elle croyait qu'il allait aller dans son domaine. Puis après, elle s'est rappelée qu'il ne vivait pas sous l'eau.
C'est votre sœur, la petite sirène, Anna Karina?
Oui, on peut dire ça comme ça, un tout petit peu, oui, c'est vrai. En plus, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai adapté, l'histoire de Hans Christian Andersen, la petite sirène. Alors, ça me touche beaucoup. Je trouve ça génial, raconté par la petite fille. Bon, évidemment, moi, je l'ai fait un peu différemment, voilà.
Et quand vous étiez petite fille, ça représentait quoi, cette histoire?
Oh, c'était une histoire pour les enfants, bien sûr. Et puis, j'aimais beaucoup les contes de Hans Christian Andersen. Et c'était mon univers. Mon grand-père m'offrait toujours un petit livre pour Noël. Et je le connaissais quasiment par cœur à l'époque. Maintenant, j'ai un peu oublié parce que ça fait quand même plus de 60 ans que je vis en France, presque.
Et comment on dit la petite sirène en danois ?
Den lille sirène.
Et il paraît que quand vous aviez 4 ans, vous chantiez une chanson qui disait « Je veux être comédienne ».
Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, si on peut chanter, on ne chante pas très bien
à
4 ans, mais enfin, on gazouille, quoi.
Ça ressemblait à quoi, cette comptine?
Mais c'était « La vive ascous pilaïne », et voilà, « Je veux être comédienne plus tard ». C'était une petite chanson qu'une autre petite fille avait chantée à la radio à l'époque. C'était touchant, ça m'avait beaucoup touché et beaucoup amusé.
Je te parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je te parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je te parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus.
Une vie de femme. C'est rare de pouvoir regarder quelqu'un et voir sous ses yeux une vie de femme, en mettant des majuscules à chaque mot. Anna Karina semble dire « Si je te parle du temps, c'est qu'il m'appartient ». Quand on n'est pas une enfant très aimée, que son père est en mer, que sa mère est occupée, on va voir plus grand, on descend dans la vie et on s'accorde avec les éléments. Anna Karina, c'est un astre et tout se met à tourner autour. C'est un mouvement, battement de cils, longs cheveux noirs, fines cigarettes. À 17 ans, la Danoise fait valser Paris. Et presque 60 ans plus tard, les rues de Saint-Germain s'excitent à son passage. Son grand-père, qui habitait une cabane en bois, l'emmenait en moto à 150 à l'heure et lui disait « Accroche-toi, Anne-Karine, la vie est sublime ». Elle a donc suivi ce programme. Jean-Luc Godard disait qu'Anna ne raccordait pas, d'un plan à l'autre, son visage changeait d'expression et si rapidement. C'est « Accroche-toi à la vie, elle est sublime ». Elle réinvente ce qu'est une vie de femme. Elle va plus loin que « il y a des hauts et il y a des bas ». Anna Karina, elle rétablit les intensités. C'est aussi fort d'avoir dansé dans Bande à part de Godard, que d'avoir chanté avec Gainsbourg, que de marcher hier dans Saint-Germain-des-Prés, que d'écrire chez soi, que d'aimer son mari, que de parler avec Henri au restaurant à midi. Rétablir les intensités, ça veut dire aucune nostalgie. Ça veut dire aimer la beauté d'hier autant que celle d'aujourd'hui. Elle est une des rares à venir parler encore de la nouvelle vague, comme si la bande en avait eu marre du passé. Alors qu'Anna Karina n'a pas hiérarchisé le temps comme ça. Jamais ses flashbacks ne la font reculer ou ne la font ralentir. On parle souvent de ses yeux et moins de ses mains. Si elle nous montrait, on verrait la bosse de l'écrivain. Un de ses romans s'appelle « Jusqu'au bout du hasard ». C'est une fugue, une cavale. Patrick Modiano dit « À 18 ans, quand j'écoutais Anna parler, j'étais enchantée de son aptitude à transformer les mots d'argot en un doux chuchotement. » Anna Karina a appris le français avec le cinéma. Elle a fait de sa langue un roman. Et c'est une vie de femme. Les hauts et les bas sont dépassés. Anna Karina rétablit les intensités, se met sous le soleil exactement et laisse toujours une place à qui veut bien l'accompagner.
On se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité.
En studio, il y a Anna Karina, Anne-Karine Beyer, née au Danemark en 1940, un 22 ou un 23 septembre, et arrivée à Paris à 17 ans. Elle tournera 8 films avec Jean-Luc Godard, qui la disait « une femme d'action ». Puis elle tourne avec Fassbinder, Rivette, Deville, Arcadie, entre autres. Elle écrit et ses romans n'ont rien à voir avec le cinéma. Elle a réalisé des films et elle chante avec Gainsbourg ou avec Philippe Catherine. Aux États-Unis, elle a rencontré Denis Berry, son mari, acteur et réalisateur, en studio avec nous. Il y aura les rues de Saint-Germain et un ou deux visages qui font partie de son quotidien. À la chanson, la voix de Matt Elliott qui chante « Le calme avant la tempête et avant l'inconnu ». Et ça commence par 17 ans.
Et vous êtes arrivée dans Paris toute seule?
Oui, toute seule. Et le premier temps, j'ai habité l'hôtel et après...
Vous êtes descendue au premier hôtel que vous avez trouvé?
Oui, non, comme ça, on m'avait dit, si tu vas à Paris, il y a un hôtel à la Bastille, qui est très bien et pas très cher.
Et vous viviez de quoi? Vous aviez de l'argent?
Oui, j'avais 10 000 francs, comme ça.
Ah, ça a duré combien de temps, ces 10 000 francs?
Pas très longtemps, c'est-à-dire, j'ai pas mangé pendant 3 semaines, je crois, au début. Mais j'ai eu de la chance.
Parce que
j'ai fait des photos avec Jour de France. Deux jours après, je me suis promenée comme ça à Paris en blue jeans parce que je ne savais pas du tout m'habiller, rien du tout. Et tout d'un coup, dans un café comme ça, il y a une femme qui me dit « Tiens, mais c'est formidable, c'est tout à fait ce qu'il me faut pour demain, pour Jour de France. » Je fais un reportage, je fais la mode. Et
la mode des blue jeans?
Oui, comme ça. Mais il faut pas vous habiller comme ça, c'est très mal, c'est pas bon. Et il faut vous maquiller, etc.
Et vous avez accepté tout de suite?
Oui, parce qu'elle avait l'air bien gentille.
Denis Berry, je crois que vous décrivez Anna Karina comme un chat qui danse sur les trottoirs.
Tous les cas, je trouve l'expression juste. C'est-à-dire, par exemple, si on fait du vélo avec Anna Karina, elle siffle des airs de Delerue, de Nino Arota, et on se croirait toujours un peu dans un film gay, avec on a l'impression de fêter la vie. Et donc, quand elle danse pas sur les trottoirs, elle chante sur les vélos. Voilà.
En tout cas, là, avant de commencer l'émission, tous les deux, vous étiez en train déjà de tapoter des rythmes sur la table. Et de commencer à chanter presque.
Oui, on peut le refaire d'ailleurs.
C'est un rythme qu'Anna m'a appris. Moi qui ne suis pas du tout musical, c'est la seule chose rythmique que j'arrive à faire, tandis que tous ses amis musiciens essayent encore d'arriver à le faire.
Ah, allez-y pour voir. Pas mal. Anna Karina, est-ce que être devenue actrice, c'est finalement le prolongement de cette enfance? On parlait de la petite sirène, mais une enfance où vous vouliez être aventurière et où vous faisiez le clown en imitant Armstrong, en jouant la sorcière?
Ah, mais c'est vrai, j'ai toujours fait le clown. Même à l'époque, à l'école, hein, c'était moi le clown parce que je me trouvais pas très jolie. Et voilà, j'ai monté un peu à la fin de l'année à l'école, des petites pièces comme ça. Mais je prenais toujours la plus belle pour jouer la princesse. Et moi, c'était toujours la sorcière qui parlait comme ça. Ou alors jouer aussi. Parce que les garçons voulaient pas tellement jouer à l'époque. Voilà, ils étaient trop timides ou c'est pas, ça les intéressait pas peut-être. Et donc je jouais aussi je prenais une voix très grave comme ça, voilà, je parlais comme ça déjà à l'époque. Et j'ai toujours voulu, mais je pensais pas devenir vraiment quelqu'un qui allait faire du cinéma ou des trucs comme ça. Je pensais que je serais plutôt chanter, danser dans la rue, quoi, et juste pour un peu comme les gitans, quoi.
Quand vous arrivez à Paris, le français, comment vous l'apprenez?
Ah, mais là, je ne parlais pas du tout. Je parlais anglais. Hein. C'était très, très... Parce que chez moi, on ne parlait pas français. Et puis, personne ne parlait anglais, d'ailleurs. Mais moi, je parlais anglais, déjà. Je ne sais pas.
Est-ce que c'est la rue ou c'est les films qui vous ont appris?
Mais c'est plutôt le cinéma, parce qu'à l'époque, on pouvait rester au cinéma de midi à minuit pour le même ticket, hein. Alors ça tombait bien, parce que comme ça coûtait pas trop cher. Et donc j'ai fini par comprendre quand Gérard Philippe disait « Bonsoir madame » et que Gavin disait « Salut ma vieille », ça voulait à peu près dire la même chose.
Pourquoi une femme est-elle belle? Que lui diriez-vous pour être bien dans la vie?
Ah, je lui dirais d'abord d'être très propre. Après ça, de penser très bien, ne pensez jamais mal, ça se voit sur votre visage. Et ça se voit dans votre corps aussi, ça se voit partout. Les gens qui pensent mal. Vous comprenez, on fait quelquefois des choses mal, ça fait rien, on se met un petit peu en colère, on se dispute. Mais c'est de penser mal, et je trouve que les gens pensent mal.
Aimez-vous notre époque?
Je ne crois pas. Je suis romanesque comme personne, vous comprenez? Je suis plutôt sentimentale qu'autre chose, et ce que personne ne croit. Ce qui est bien pour, commode pour moi, parce que je peux juger tout le monde, parce que tout le monde me parle comme si j'étais un dragon.
C'est ce que j'ai cru.
C'est Coco Chanel, ça.
C'est ce que j'ai cru.
Quand vous la croisez, Coco Chanel, c'est où et vous êtes comment, habillée, maquillée? Vous ressemblez à quoi?
Mais je ressemble peut-être à une petite fille, une jeune fille, quoi. Donc, tout à coup, il y a cette dame extraordinaire qui arrive avec son chapeau. Et je crois qu'il avait une petite... Je crois que c'était une cigarette qu'il avait à la bouche. Quelque chose. Elle fumait, en tous les cas. Et elle me dit, mais écoute, tu as dit à la maquilleuse en anglais que tu voulais être comédienne, parce qu'elle parlait anglais aussi, hein. Et j'ai dit, oui, madame, en anglais, bien sûr. Elle m'a dit, bon, mais écoute, comment tu t'appelles? J'ai dit, je m'appelle Anne-Karine Bayer. Elle dit, Anne-Karine Bayer. Elle réfléchit un peu, elle dit, écoute, si tu veux vraiment être comédienne, tu t'appelleras Anna Karina. Et une fois qu'elle était partie, j'ai dit, mais c'est qui cette dame? Elle dit, c'est Coco Chanel. Elle m'a dit, mademoiselle Coco Chanel. J'ai dit, ah oui, le parfum et tout ça, là, ça. Mais au départ, je ne le savais pas, quoi.
Est-ce que vous avez toujours une passion pour la rue, pour la rencontre dans la rue?
Bah, écoutez, moi j'habite un quartier où je connais tout le monde et tout le monde me connaît en principe, hein, parce que tous les jours, on ne peut pas faire deux pas avec Denis, mon mari, sans qu'on dise salut les amoureux, ça va, comment allez-vous? Et on parle avec tout le monde, quoi.
Et je crois que vous aviez dit, ça m'aide à vivre, si on ne s'intéresse pas aux gens, on n'a plus aucune raison d'exister. Est-ce que ça va jusque-là, la rencontre?
C'est ce que je pense toujours, oui. Mais moi, je ne peux pas vivre sans vivre avec les autres, quoi.
C'était samedi après-midi sous la pluie. J'avais des rendez-vous secrets à Saint-Germain-des-Prés. et nous avons joué au chat et à la souris avec Anna Karina et Denis Berry, qui sont allés déjeuner au restaurant où je devais aller enregistrer Henri, puis faire leurs courses au supermarché devant lequel j'avais rendez-vous avec Brigitte, qui s'est cachée pour les éviter et pour garder la surprise. Brigitte m'avait dit « J'aurai une écharpe rouge, comme Anna, ce sera le code ». Et ça les avait sourire, je crois, Brigitte et Henri, de me voir avec un micro leur demander ce qui va tellement de soi, ce qui ne s'explique pas, leur relation avec Anna.
Coucou Anna, c'est Bri-Bri, tu me reconnais? Alors voilà, c'est ici que j'ai rencontré Anna, à la caisse. Alors à l'époque, elle avait une petite chienne qui s'appelait Lola. Et un jour, il y a une dame qui s'est permis de l'emmener avec elle. Et je connaissais Anna de vue, mais pas personnellement. Et je savais que c'était son chien. Et j'ai quitté ma caisse, j'ai fermé la caisse, j'ai dit aux filles, je reviens. J'ai été récupérer le chien dans la rue. Et quand elle est arrivée, elle a fait ses courses dans le magasin. Quand elle est arrivée au niveau des caisses, elle voyait plus son chien. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, elle est attachée au pied de ma chaise. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître, grâce à la petite Lola. Et un quart d'heure après, elle est arrivée avec son mari, avec une bouteille de champagne. Ils m'ont offert une bouteille de champagne parce que j'avais récupéré Lola. Parce que Anna sans Lola, c'était plus Anna, quoi.
Et ça, c'était quand alors? C'était
c'était en 83, 84, par là, à peu près. Dans Petite Lola, je suis Brigitte de la rue de Seine. Voilà. Je pense à toi, ma petite Lola, petite chienne adorée, t'as pas fini de me manquer.
Je pense à toi, ma petite Lola, je te vois rouler grand train sur le boulevard Saint-Germain, sans chaussures, en manteau de...
Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on s'était donné un code. Alors, vous aviez une écharpe rouge.
Oui, comme ça, c'était plus facile. C'est Anna qui me l'a offert. C'est un cadeau, oui.
Parce que vous m'attendiez devant le supermarché, elle est arrivée avec son mari, c'est ça, tout à l'heure?
Oui, tout à l'heure, oui. Mon mari m'a dit, ils viennent de rentrer, et on les a vus sortir. Et on est allé aux fruits et légumes au coin de la rue pour pas tomber dessus, quoi.
Pour vous cacher?
Bah oui, parce que sinon, ça n'aurait pu être une surprise. Alors Anna, si tu m'entends, je te dis bonjour. On se voit bientôt pour ce qui attend dans ton couloir, elle va savoir. Et on se fera un petit resto ensemble, et je te fais des gros bisous. J'ai 65 ans et j'ai pas eu de... J'ai eu des bons amis, mais Anna, c'est vraiment quelqu'un de... Elle est fidèle, elle est gentille, elle nous met à l'aise. Pendant que j'étais à ma caisse, elle était capable d'arriver avec un gros bouquet de fleurs et dire « Tiens, c'est pour toi ». C'est plus qu'une amie, c'est comme une sœur, quoi. C'est... Un jour, on prenait des photos parce qu'il y avait la fête... du Beaujolais nouveau. Toutes les caissières avaient un petit chapeau, on nous prenait en photo. Elle était capable de venir s'afficher avec nous pour la photo. Ou...
Et vous avez quels autres repères dans le quartier avec elle?
À l'époque, il y avait le Hall Navy, boulevard Saint-Germain. Quelquefois, elle se met là au Matrian pour prendre un café. Ou... Parce que maintenant, comme on fume en terrasse, alors comme elle fume pas mal, excusez-moi...
Et qu'est-ce que vous avez en commun, toutes les deux, vous diriez?
C'est un peu ma grande sœur. J'avais un frère qui avait son âge et qui n'est plus. Et de la même année, ils sont nés. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir une amie comme ça. Ça va, là, j'avais peur d'être filmée, j'ai eu peur. J'ai dit à Naëlla, à la même heure, j'ai dit à tous les coups, ça va être un traquenard, hein, une caméra cachée, un truc comme ça. Non, non, je ne suis pas filmée. Non. Vous êtes toute seule, hein.
Je ne sais pas s'il pleut encore, peut-être. Est-ce
qu'il
y a
un... là, à fond, oui.
Il y a un endroit où vous avez l'habitude de boire un petit café, où vous voulez qu'on aille boire un café?
Au Matrian, juste celui qui fait le coin de la rue.
On y va?
Si sa table est libre, on va la prendre. Elle aime bien se mettre dans le coin pour fumer, pour être à l'abri, au chaud, parce que c'est chauffé. Elle aime le rouge. Je l'ai surnommé. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça. La Stendhalienne de Saint-Germain. Parce que rouge et noir.
Et vous aussi, vous êtes en rouge et noir maintenant?
Oui, mais déjà avant de la connaître, c'était sans le savoir.
Après, je vais aller à la muraille de Jade.
Ben oui, c'est là qu'on mange ensemble, quand on se rencontre. C'est peut-être plus discret par le boulevard. Parce que là, je connais trop le monde. et 30 ans ici quand même. Et je continue d'y venir.
Bonjour, je suis Aurélie Charon de la radio de France Culture.
Enchantée.
Enchantée. Bonjour.
Vous ?
Oui, moi.
Elle est venue ce midi ?
Oui.
On a parlé de vous ?
Ah bon ?
Elle était là avec
oui,
son mari.
Oui, comme d'hab.
Enchantée. Enchantée. Je vous prie.
Ah, c'est le club des amis d'Anna Karina. Là.
Je sais pas, hier elle est venue, aujourd'hui elle est venue, peut-être demain. On se quitte plus, hein ? Je suis dans le quartier depuis 52 ans.
Oui.
Depuis 64.
Ça fait 34.
Et on se connaît parce que là-bas, vous...
Oui, ça fait 30 ans, au moins.
Et Anna venait souvent. C'est une femme chaleureuse. Je ne sais pas comment vous expliquer. À chaque fois, les clients me sont dit, c'est Anna Karina. Je dis oui. Est-ce que je peux lui parler, dire bonjour, parce que je suis son admiratrice. Je dis, écoutez, je vais voir. Alors, il y a Anna, il y a un client qui veut vous voir, c'est possible? Il dit oui, avec un sourire. Alors, et toujours, toujours, Anna se lève.
Qu'est-ce que vous lui diriez, comme si vous lui transmettez un message ou un mot?
Que je l'admire. Que je l'admire, que je l'aime beaucoup, beaucoup.
Tout en restant...
Tout est très simple chez elle, mais c'est grandiose. Et là, c'est Mani. Et voilà, c'est sa table, c'est sa chaise. Il ne faut pas bouger la chaise. Elle est comme ça. Elle a posé son manteau. Elle est là. Il ne faut pas la bouger. Une fois, j'ai le malheur de bouger. Il me dit, Henri, laissez-la. Après, j'ai compris.
Ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit. Et Anna, je t'aime. Et tu es ma grande sœur de cœur et mon amie pour toute ma vie.
Moi, je ne peux pas dire que je l'aime parce qu'après son mari va être chaleux. Moi, je ne pense pas que Denis, on s'est compris. D'ailleurs, un jour, j'ai dit à un de mes clients, et puis il lui a répété parce qu'ils se connaissent, je vais faire un dernier film avec Anna Karina, Le Dernier Amant. Alors, c'était dans un restaurant vietnamien à Saint-Germain-des-Prés. Anna était assise. Et puis, à ce moment-là, moi, j'arrivais et nos regards se croisent. Et puis, on se marrait. Et cette personne lui a répété, mais que je ne savais pas, elle me dit, Henri, je ne suis pas au courant, on va faire un film. c'était drôle. Ah oui, c'était drôle.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas d'homme. Un homme sans femme, il reste en panne.
Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie. Froide et la plus chaude des brunes, près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thunes. Froide et la plus chaude des blondes, près d'un mari à tête ronde, près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand
et
on
alors,
s'envole.
Henri a ajouté dans le restaurant, attention Anna Karina, elle fait attention à toujours la lumière sous laquelle elle se met. Ça c'est important de se mettre sous le... de choisir sa lumière dans la vie, c'est plutôt beau comme programme.
Mais écoutez, c'est quand même plus agréable quand la lumière n'est pas... Moi, je me rappelle même, quand on était très jeune, dans les années 60, on n'aimait pas trop le néon. Parce que ça tenait mauvaise mine et ça tenait des cernes, comme ça. C'est plus agréable quand on est bien éclairé, surtout quand on va au restaurant, quand même. Et puis aussi à la maison. Chez nous, la lumière est très douce et tout le monde est beau.
Karl Dreyer.
Je parle toujours de visage parce que ce qui intéresse, qui m'intéresse et qui intéresse au public, ce sont les âmes et les visages et tout ce qui est derrière le visage. C'est dans le visage humain que nous cherchons ce qui nous touche. Pour nous-mêmes et ce qui nous est émouvant et crée une émotion. Si on a un mouvement, un plan long, un mouvement, là il faut le tenir en mouvement autant que possible. Et s'il y a une actrice qui a besoin de pleurer, il faut le prendre comme elle est, mais pas, et continuer le mouvement.
À
Anna Karina, Dreyer parle du visage. Je crois que c'est un des cinéastes que vous appréciez beaucoup, Karl Dreyer.
Ah, tout à fait, oui. J'ai eu de la chance de le connaître grâce à son fils Éric Dreyer, qui était correspondant à l'époque à Paris. C'est lui qui m'a présenté son célèbre papa, Karl Theodor Dreyer. Et je dois dire qu'à l'époque, j'étais mariée avec Jean Ducodard, et à chaque fois que Dreyer venait à Paris, il fallait que ça soit, qu'on aille le chercher à Orly. Il n'y avait pas encore Roissy à l'époque. Et voilà, ce qu'on faisait avec grand plaisir d'ailleurs. Et puis il allait à la cinémathèque où montrait quelques films. Il voulait absolument que ce soit moi qui traduise, alors qu'il parle très bien le français. Mais il fallait que ce soit là.
Et dans le film Vivre sa vie, oui. Regardez la passion de Jeanne d'Arc.
Oui, avec Falconetti, oui. Alors ça, on l'avait tourné, Jean-Luc l'avait tourné dans un cinéma à Saint-Germain-de-Prés. Et évidemment, Falconetti n'était pas à l'écran. Il a dit, voilà, tu regardes le film de Dreyer, parce que je veux mettre un extrait de Falconetti, là où elle pleure, et qu'elle est condamnée. Et donc tu vas regarder cet écran, il m'a pas dit. Et puis, je ne sais pas, tout à coup, je me suis mise à pleurer naturellement, quoi, parce que je l'avais déjà vu le film à la cinémathèque, mais là, il n'était pas à l'écran, bien sûr. Et donc, c'est devenu un petit moment comme ça, émouvant, quoi. Et qui a beaucoup plu à Dreyer aussi, bien sûr, pour lui rendre hommage.
On va faire un petit détour vers la musique de Matt Elliott et on a ouvert l'émission avec La Petite Sirène et l'idée de cette tempête au-dessus de la mer. Je crois que votre père était capitaine au long cours.
Oui.
Et que vous l'avez retrouvé quelques fois dans votre vie, peu de fois, mais dans des
très
ports
peu de
justement.
Fois.
À Liverpool, à Barcelone.
Non, pas à Liverpool. Pas à Liverpool. Il est à Londres, à la gare. Il partait à Liverpool. Prenait le train pour Liverpool, oui. Avec Jean-Luc Godard, oui. Ouais, ça s'est très mal terminé, là, parce que la première chose qu'il m'a dit, c'est que tu manques un bouton. C'était vrai, je manque un bouton à ma veste, mais bon, c'est pas une chose qu'on dit à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis la première fois que je l'ai vu, j'avais 4 ans, je me rappelais pas, quoi. Il m'a dit, tu manques un bouton, et ça m'a vraiment, vraiment tellement blessé que je lui ai dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as jamais écrit une carte postale, j'ai 19 ans maintenant, 18 ans, 19 ans. Et maintenant, tu me dis, je manque un bouton, mais tu vois, ce type-là, il y avait plein de gens qui passaient, bien sûr, à la gare. T'es pas plus mon père que ce type-là. Et je me suis complètement, j'ai pleuré et tout ça. Et Jean-Luc Godard comprenait pas, bien sûr, puisque il comprenait pas le danois, parce que tout ça, ça se passait en danois. Et puis, après, je l'ai pas revu pendant des années, enfin, quelques années, puisque, à 23 ans, j'ai tourné un film avec Maurice René à Barcelone. Et à Barcelone, je reçois un coup de fil, comme d'ailleurs à Londres, parce que c'était la une du journal. Et avec l'hôtel et tout ça, et je reçois un coup de fil, je dis, c'est ton père, je suis dans le port de Barcelone. Est-ce que tu veux me voir? Est-ce que tu veux déjeuner avec moi? Alors j'arrive je finis par dire oui, j'arrive dans le port de Barcelone, on déjeune ensemble. Et là, je trouve un mec absolument, mais je le trouve beau, je le trouve intelligent, vraiment formidable, merveilleux. On parle pendant une heure, il est avec un de ses fils, donc je ne sais pas combien de demi-frères j'ai pour de vrai, mais en tous les cas j'en ai un, il s'appelle Søren. Et le petit, il avait 8 ans à l'époque. Et donc on a c'était vraiment sympathique et tout, et je lui dis, écoute, je prends ton numéro de téléphone et ton adresse. Elle m'a dit, non, ça se peut pas, mais je vais prendre ton numéro de téléphone et ton adresse à Paris. Et je dis, oui, mais donne-moi quand même ton numéro de téléphone. Elle dit, non, je peux pas, je suis remariée, c'est un problème, etc. Et il m'a dit, mais je vais t'écrire, t'inquiète pas, et je vais t'inviter un jour, on va faire un vrai tour du monde ensemble. Sur le bateau que je vais, évidemment, il était capitaine des longs cours, alors. C'était génial. Et puis il m'a plus jamais donné de nouvelles. Et ça, ça a été vraiment une déception dans ma vie. J'ai plus jamais entendu. Et un jour, ma mère m'appelle, elle habitait maintenant, et enfin, elle était partie à Malaga, vivre à Malaga, en Espagne. Et j'ai dit, maman, parce qu'elle ne m'appelait pas souvent, ça, Denis, il est témoin de ça. Elle ne m'a pas souvent appelé. Et j'ai dit, mais au fait, mon père, tu as des nouvelles de mon père? Elle m'a dit, oh, il est mort. Elle me fait comme ça. J'ai dit, quoi, maman? Mon père est mort et personne ne me le dit. C'est extraordinaire. J'ai dit, quand même, c'est quoi cette histoire?
C'est le calme avant la tempête, avant les sentiments que chante Matt Elliott. Ça commence toujours doucement, avec la guitare et puis la voix, avant l'ouragan. Il y a suggéré dans chaque note la suite vivante, imprévisible. Ces moments où la vie est bouleversée par une rencontre ou par l'inconnu qui suit, ça s'appelle « The Calm Before ».
Je suis Matt Elliott et dans Backstage d'Aurélie Charron sur France Culture. Dust and papers dance around the room, it tells of a storm. The skies are painted viscous swirl of troubled hues, there's a storm. The branches rock and dance and creak and wave, we're in for a storm. I've got this headache that I've had for days and here comes the rain. The first few drops caress and gently dance, they light up your face. You smile and wonder, looking through the eyes of a child once again. But soon the gentle drops become the deadly wolf of a gale. Our voices become lost beneath the chaos. Here comes a storm. The way the wind it starts to play and race, it whispers a storm. And here comes a storm. Just as everything was falling into place, here's a storm. There must be a storm. Don't we need it? Just to clear it, to blow the dust away. Away to a place where it can never be found or thought of again. This patch of blue, this ray of sun, the sense of a strange, uneasy calm. Perhaps that was all, perhaps we're done. Or maybe the worst is yet to come, and all is calm and cold as death, as all of nature holds her breath. But soon enough she'll blow, she'll howl, she knows. She'll blow us deep into the ground, to the ground where we can only pray that we will never
Est-ce que c'est vrai ce qu'on a raconté à propos de votre rencontre, Jean-Luc Godard, Anna Karina?
Non,
c'est... Vous savez ce qu'on a dit?
Oui, oui, on a dit que j'ai rencontré mon mari par une annonce, et c'est absolument faux, parce que à l'époque où il faisait la poule souffle, il m'avait vu dans un petit film, c'est-à-dire dans un film publicitaire. Et
on a précisé que cette annonce disait Jean-Luc Godard cherche une âme sœur pour faire du cinéma
ça.
Avec Luc, chose du même
Mais moi,
genre.
Je ne savais pas du tout à l'époque, c'est-à-dire il avait fait passer ça dans le film français. Et à l'époque, moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le film français.
Et une âme sœur non plus, je pense.
Non. Alors, il m'avait vu dans mon... c'est-à-dire dans un film publicitaire. Et il m'avait demandé de venir au bureau pour faire un tout petit truc dans un bout de souffle.
Vous avez déjà demandé de faire des passages dans des films à cette époque? C'était la première fois?
Oui, très souvent comme ça, mais... Je parlais tellement mal le français à l'époque.
Bref, vous avez rencontré Jean-Luc Godard.
Oui.
Il vous a fait quelle impression à ce moment-là?
Oh, c'était un homme bizarre, timide, comme ça, avec des lunettes noires, comme ça, il m'a fait un peu peur.
Les hommes timides vous intimident?
Oui.
Anna Karina, c'est cette fameuse histoire de la petite annonce qui n'en est pas une, parce que Jean-Luc Godard avait passé une petite annonce en disant qu'il cherchait une interprète et une âme sœur pour son film, mais en parallèle, il vous avait trouvé, donc finalement...
Mais au fait, comme c'est moi qui ai été choisie, évidemment, c'était évident que pour les gens que je m'étais présentée à cause de... Mais je ne savais pas du tout ce que c'était le film français à l'époque. Alors.
Et ça vous avait énervé? Cette histoire d'âme
sœur. Oui, parce que je trouvais pas ça juste, quoi. Je suis pas quelqu'un qui ment. Alors, j'aime bien qu'on dise au moins la vérité, quoi. Mais si ça avait été le cas, j'aurais dit oui, c'est moi, je me suis présenté, mais c'est pas vrai.
Il y avait eu un premier petit rôle que vous aviez refusé parce que vous aviez pas envie de vous mettre nu à l'écran.
Voilà, je voulais pas me déshabiller, voilà. Parce que je me dis, s'il me demande de me déshabiller, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouvais ça bizarre, quoi. Et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai refusé, je suis partie. Et puis 3 mois plus tard, j'ai reçu un autre télégramme. Et à ce moment-là, j'avais quand même des copains. Et j'ai dit, mais il y a un monsieur là qui me demande de venir. Le télégramme disait, cette fois-ci, c'est peut-être pas le rôle principal. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Et ils me disent, mais vous connaissez... Je me rappelais plus Jean-Luc Godard. Il dit, mais... Vous le connaissez? Vous dites, ah oui, il vient de faire un film formidable avec Yann Seberg et Jean-Paul Belmondo. Il faut absolument que j'aille le voir. Parce que je dis, mais quoi? Et c'est pas un monsieur avec des lunettes noires, un peu comme ça, un peu mal rasé, un peu bizarre comme ça. Je dis, si, c'est lui. Mais il paraît que c'est génial. Le film n'est pas encore sorti. Il va bientôt sortir, mais il paraît que c'est formidable. Alors. Bon, mais je suis allé le voir quand même, et puis je suis allé le voir, et il m'a reçu, il m'a regardé, il a presque rien dit, il m'a regardé comme ça, comme s'il m'inspectait, il m'a dit, bon, mais c'est bon, il a dit, venez signer votre contrat demain. J'ai dit, mais c'est quoi? Je dois me déshabiller. J'ai dit, c'est quoi, c'est pour quel genre de film? Il a dit, mais écoutez, c'est pour un film politique. J'ai dit, mais vous êtes fou, moi je peux pas faire un film politique, c'est pas dans mes moyens, je parle pas assez bien, je peux pas faire un discours politique en français, c'est pas possible. Il m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, il y a qu'à faire ce que je vous dis de faire. Alors, venez demain. J'ai dit, mais je peux pas venir demain. Il dit, quoi encore? J'ai dit, mais parce que je suis mineur. Il dit, mais c'est pas un problème. Il me dit, venez avec votre maman, elle va signer pour vous. J'ai dit, mais ma mère, elle habite à Copenhague. J'ai dit, il fait, oh là 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 là. Mais au fait, j'appelle ma mère, j'ai dit, maman, je vais jouer dans un film français, le rôle principal dans un film politique. Elle a dit, quoi? Mais t'es folle, mais t'es complètement folle. Évidemment, il est venu signer le contrat, mais j'ai dû vraiment la persuader. Je sais pas combien. vont lui raconter toute l'histoire pendant une demi-heure au téléphone et il n'y croyait pas vraiment, je pense. C'était le petit soldat où je joue Véronica. Et voilà, c'est le premier film que j'ai fait avec Jean-Luc.
Est-ce que Jean-Luc Daudard avait toujours cette idée que les acteurs ne travaillaient pas assez?
Ah mais ça c'est sûr, là il nous disait vous êtes des feignants, vous ne travaillez pas assez, vous n'êtes pas assez sportif. Un acteur ça doit faire comme un ouvrier. Un ouvrier il travaille 8 heures par jour. Un acteur doit faire exactement la même chose. Il doit travailler son texte ou un texte quand il ne travaille pas, quand il ne tourne pas, il ne joue pas au théâtre. Il doit travailler 8 heures par jour devant un miroir pour essayer de trouver tous les sentiments possibles et de tirer son texte le plus naturellement possible. Mais vous ne travaillez jamais assez. Voilà, il nous a engueulé comme ça.
Est-ce que vous comprenez quand il dit que vous n'aviez pas un visage qui raccordait? Enfin, c'est une formule, mais pour dire que vous aviez tellement des émotions qui changeaient rapidement et un visage tellement expressif qu'il fallait prendre, qu'on ne pouvait pas coller de prise.
C'est vrai qu'il m'a dit que je ne raccordais pas. Parce qu'on attend toujours 10 minutes entre... parfois même des heures, hein, entre deux scènes, hein, au cinéma, entre des plans, quoi.
Denis Berry, vous l'avez filmé, Anna Karina, quelquefois. Comment vous décririez son visage qui ne raccorde pas, mais qui est vivant, notamment dans La Song, où elle jouait la veuve d'une rockstar?
Ben, si vous voulez, dans La Song, Anna m'a beaucoup aidé dans l'écriture, parce que j'ai une tendance un peu radio. Et je fais des longues tirades, et donc on a filmé un monologue d'Anna qu'elle a réécrit complètement elle-même, et on l'a filmé en plan séquence, de telle sorte que ça raccordait forcément dans la mesure où quand son visage changeait, il n'y avait pas à passer d'un plan à l'autre. Mais c'est vrai, quand on filmait ce genre de plan, avec Armand Marco, qui était mon chef opérateur et ami, on était très très impressionnés, tendus sur le plateau, et on essayait de tout installer le mieux possible dans une espèce de... créer un petit espace sacré. Et ensuite, de quoi? Comme c'était un peu un plan en mouvement où il n'y avait pas de montage, il y a juste une coupe dans toute la scène qui dure quand même 3-4 minutes, on peut voir tous les mouvements en direct de son visage qui changent.
Et qu'est-ce que vous a apporté le théâtre, Anna Karina? Vous parliez de Jacques Rivette tout à l'heure... qui vous a mis en scène.
Mais ça a été extraordinaire pour moi, parce que jouer au théâtre, j'avais 22 ans, quoi. Et c'était Avenue Montaigne, au studio, et c'était un cadeau, quoi, aussi. D'ailleurs, j'ai eu que des cadeaux dans ma vie, au fait. J'ai eu des hauts et des bas, bien sûr, mais comme tout le monde, des bas, parfois... Mais c'est plus dans ma vie sentimentale que j'ai eu des bas.
Et vous dites que j'ai eu des bas dans ma vie sentimentale.
Moi, dans ma vie sentimentale.
Est-ce qu'il y a des films qui vous ont sauvé la vie ou sauvé certains moments de vie?
À un moment donné, j'allais très très mal parce que j'avais perdu un enfant et j'avais fait une fausse couche. Et ça m'a vraiment brisé le cœur et je sortais de l'hôpital et quand Jean-Luc est venu me chercher, et ben il m'a fait jouer dans Bande à part avec Claude Brasseur et ça m'effraie. Et on peut dire qu'en quelque sorte, oui, de faire quelque chose, de jouer, ça m'a sorti de... Mais je suis quelqu'un qui déprime, mais au fait, je crois que ça ne dure pas trop longtemps. Je ne pense pas. Parce que je préfère évidemment sourire et rigoler, hein, c'est sûr. Mais quand ça va mal, ça va mal. Mais ce n'est pas quelqu'un qui me montre beaucoup quand ça va mal. On ne me voit pas. Et je me cache.
Vous écrivez quand
comme
ça va
bien. Comme les oiseaux.
Vous écrivez quand ça va bien ou quand ça va mal?
Écrire, non, il faut plutôt être en forme, parce que c'est assez difficile déjà pour écrire tout simplement. Moi, j'ai quand même publié 3 romans et deux albums, La Petite Sirène et Le Vilain Petit Canard, que j'ai quand même fait moderniser, quoi, complètement.
au fond, elle écrit comme auraient pu écrire les, j'allais dire les personnages de certains de ses films, comme la, celle que l'on voit dans Pierrot le Fou ou dans d'autres films. On peut dire que ça pourrait être un peu comme dans les films noirs. En fait, elle est un peu dans la lignée de Chester Himes. Enfin, c'est comme l'univers des films noirs américains. C'est l'histoire d'une sorte de dérive de deux adolescentes qui partent de Normandie et qui dérivent vers le sud. Le réalisme est tellement noir que c'est comme une sorte de... Je dirais pas de cauchemar, mais c'est complètement onirique, en fait.
Je lis, hein. Oui, permettez, oui. Je lis la préface. Certains passages pourront choquer les délicats, mais ils auraient tort de rester sur cette première impression.
Oui, parce qu'elle stylise l'argot, c'est-à-dire que quand elle dit des mots, avec ce léger chuchotement qu'elle a, ça donne un argot qui est complètement réfracté, comme ça. Ça choque parce qu'elle emploie des termes très crus, tout ça, mais...
Et c'est ce que vous dites ? Alors, c'est toujours la même manière de violenter la langue française pour en faire surgir une tendresse, une amertume, un désespoir, ce que Céline appelait le rendu émotif.
C'est Patrick Modiano.
Denis Berry, elle écrit comment Anna Karina, est-ce qu'il y a des rituels ? Il paraît qu'elle peut écrire 8 à 10 heures par jour.
C'est-à-dire que quand Anna fait quelque chose, elle le fait à fond. Et quand tout d'un coup, elle se jette dans une écriture, elle écrit tout le temps. Elle commence le matin et quand on la retrouve le soir, elle oublie que peut-être il faudrait dîner. Alors évidemment, comme elle est merveilleuse cuisinière et qu'elle est très sympa avec moi et que moi j'adore faire une petite fête le soir, elle me fait une petite fête avant de se remettre à écrire. Ensuite, en général, elle me demande de lire ce qu'elle écrit. Je le lis à voix haute pour qu'elle ait une espèce d'écoute de ce qu'elle a écrit. Elle fait quelques corrections encore tard dans la nuit, puis elle se remet à écrire le matin. On pourrait dire, disons, que quand elle écrit, ça devient un peu obsessionnel, elle ne fait que ça. Voilà.
On entendait votre ami Patrick...
Et la cuisine quand même, je te fais quand même à manger tous les soirs.
Il l'a dit.
Une petite pause, une petite fête. On entendait votre ami Patrick Modiano... qui a écrit une préface ou une postface, je sais plus, de votre roman Jusqu'au bout du hasard.
Jusqu'au bout du hasard.
Vous l'avez connu comment, Patrick Modiano ?
Mais je l'ai connu, il avait 17 ans, 18 ans, et il venait d'écrire La place de l'étoile. Et il y a sa maman, qui était ma copine, Luisa Colpen, qui me dit, je crois, parce qu'elle roulait les airs, que Patrick a écrit quelque chose de formidable. Et un manuscrit, est-ce que dis-le, elle me dit. Alors je dis le manuscrit, je trouve ça sublimissime. Et vraiment, bon, j'ai dit, mais c'est formidable. Et puis là, il a été publié chez Gallimard, et voilà, c'était parti.
Vos romans, ils ne parlent pas du tout de cinéma, ou ils parlent plutôt de jeunes gens qui sont souvent en cavale, en fuite, ou en tout cas en recherche de quelque chose qui peut les sauver un peu souvent. Qu'est-ce que vous mettez de vous là-dedans ? Pourquoi il y a souvent cette cavale, cette fuite, oui, qui revient ?
Je dois dire que quand j'étais jeune et que je m'entendais pas très, ma mère m'a eu très très jeune, donc elle s'occupait pas beaucoup de moi. Et souvent il y avait des problèmes et des trucs, et puis j'ai souvent fugué. J'étais une fugueuse depuis toute petite. Et c'est peut-être, oui, évidemment, il y a dans mes romans, les peu que j'en ai pas écrit beaucoup, mais il y a toujours quelque chose de moi, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a toujours quelque chose de soi, de toute façon, pour tous les écrivains, je crois qu'il y a toujours quelque chose d'eux dans ce qu'ils veulent bien écrire, ou ce qu'ils ont envie d'écrire, c'est tout naturel, je pense.
Il y a beaucoup de blessures de ton enfance.
Oui. Donc, oui, ça c'était le dernier.
Mais les deux, même, on n'achète pas le soleil, c'est un petit orphelin, mais c'est comme si c'est toi qui cherchais à t'adopter. Le vilain petit canard, c'est quand même un peu ton histoire.
Oui, c'est vrai.
Une petite qu'on trouve un peu laide, différente, un peu rejetée de partout, ballottée à part, qui devient un signe. Enfin, tout ça est un peu quelque part, toujours très proche de ton enfance.
C'est vrai. Oui. Mais. Tu parles mieux que moi.
L'enfance, vous y êtes restée dans l'enfance avec justement le vilain petit canard et la petite sirène dont vous parliez tout à l'heure. Et je crois que vous avez choisi Jeanne Chéral pour la voix de la petite sirène. Et alors, elle a laissé un petit mot pour vous.
Pour moi, la voix d'Anna Karina, c'est avant tout Sous le soleil exactement. Pour moi, c'est une chanson absolument mythique. Et je trouve qu'elle a, quand elle l'interprète, quand elle l'a enregistrée, en tout cas, elle avait une insolence, un grain de voix hyper sexy. Sa voix, en fait, elle a beaucoup évolué, je pense, au cours de sa vie, au cours de sa carrière, parce que justement, dans une chanson comme Sous le soleil exactement, elle est extrêmement juvénile, elle est quasiment dans le cri. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on sent bien qu'elle est pas en train de se dire je fais quelque chose de joli. Elle lance sa voix, quoi. Elle lance sa voix d'une manière assez sauvage. Et aujourd'hui, la dame qu'elle est aujourd'hui a une voix très grave, très posée, très profonde, en fait, une voix de grotte un peu.
Tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil. Exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district?
Vous aimez chanter encore, Anna Karina? Vous chantez...
Mais j'ai toujours adoré chanter, mais évidemment, maintenant, avec l'âge, j'ai plus la même voix, c'est sûr.
Une voix de grotte, c'est assez beau.
Une voix de grotte.
C'est une voix profonde.
Oui. J'adore la petite Jeanne. Hein, elle m'a fait l'honneur de jouer la petite sirène et chanter la petite sirène. En plus, elle a écrit la chanson que chantait pas Johnny Hallyday. Hein, pour hélas, tout ce qui t'arrive depuis quelque temps, là, le terrorisme, et qui est une très belle chanson.
Et est-ce que la chanson pour vous, c'est une histoire d'amour, comme l'a écrit Philippe Catherine, que vous ayez chanté avec Gainsbourg, avec aujourd'hui des contemporains comme Catherine ou Jeanne Chéral? Est-ce que c'est quelque chose de lié à, comme une histoire d'amour avec la chanson?
Ah, mais c'est que des histoires d'amour aussi. Parce que, avec Gainsbourg, évidemment, de m'offrir les comédies musicales.
Anna,
ils n'ont pas trouvé d'autres titres. C'est pas de ma faute, je n'ai rien demandé. Moi. Et donc, ça a été génial. Une comédie musicale, mais là, j'ai trouvé ça avec Jean-Claude Brialy. C'était formidable. C'est comme quand j'ai rencontré aussi Jean-Paul Belmondo et Brialy pour Une femme est une femme. Le premier jour, je tremblais tellement, j'étais ému, j'avais peur, quoi, de ne pas être à la hauteur, quoi. Et puis là, Gainsbourg m'a offert un cadeau sublimissime, et il était très, 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 très extraordinaire à l'époque, dans le sens que il était très élégant, très perfectionniste, très, oh là là, il fallait travailler beaucoup, 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 hein. Il était pas du tout, après, il est devenu Gainsbourg, mais alors moi, je l'ai vraiment connu comme Monsieur Gainsbourg. Et on riait beaucoup, on riait, parce qu'il avait aussi beaucoup d'humour, c'est clair. Et puis on plaisantait, on faisait des plaisanteries et tout, et on travaillait. Après, on allait manger du fromage en face, sur les quais à l'époque, et boire des coups de rouge, voilà.
Et vous dites j'avais peur, ou en tout cas il y a quelque chose au début comme ça de manque peut-être de confiance, ou mais finalement dans votre vie vous avez
pris le pouvoir. Ah non, moi j'ai juste peur de ne pas être à la hauteur. Mais si j'acceptais quelque chose, je travaille vraiment à fond et je me donne à fond.
Et vous étiez même une des premières actrices qui réalise un film et qui écrit un roman.
Je crois même que j'étais la première, oui, actrice. Oui.
et qui dirige donc une équipe d'hommes, ce qui n'était pas rien.
Oui, il fallait lever la voix. Trois fois la même chose pour se faire écouter à l'époque. Mais ils étaient adorables. Puis bon, ça c'était formidable. On était une toute petite équipe. Alors c'était super.
Dugarry qui part bas au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque.
Marqueur.
Voilà, Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel, c'est sûr, c'est certain. Il ne peut plus rien nous arriver. La France est...
Ça vous a rendu heureuse cette victoire, Anna Karina?
Ah oui, comme tout le monde, évidemment.
Vous aimez le sport?
Moi, oui, j'ai toujours aimé le sport. Oui. Quand j'étais petite, je faisais de l'athlétisme et puis je me suis cassé le bras deux fois. Alors j'ai arrêté. Et parce que deux fois la main droite, écrire à l'encre, en plus à l'époque, hein, avec la main gauche, c'est vraiment pas commode, hein, croyez-moi.
Et qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui, en plus des rencontres à Saint-Germain, des victoires de football?
Moi, il me faut pas beaucoup hein, pour être contente. Et puis j'ai Denis. C'est mon copain, et puis il me fait rire, et puis il a son caractère aussi. Hein. Oh là là. Mais on rigole, et puis on est toujours quasiment d'accord. Hein, Denis?
Bon, on a une très grande complicité.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Mais en fait, Anna, elle a un grand élan vers la vie, et donc le matin, quelque part, c'est comme si elle fêtait la vie. Il y a un côté chantons la vie, quelque part, vraiment. Et donc, elle se met en route comme si on disait, on joue le rôle de quelqu'un de bonne humeur. Et du coup, on est de bonne humeur, un peu comme une chanson qu'on chanterait.
Est-ce que vous pouvez refaire ensemble une fois ce rythme?
Attends.
On ne peut pas le faire synchrone, par contre.
Non, parce que tu ne peux pas. 1, 2, 3. Ah, pas mal.
Karina qui chante avec Gainsbourg.
Là, c'est Brialy qui chante.
Ah, pardon, oui, c'est Brialy sur cette...
Dans le film, oui. Mais je l'ai chanté avec Gainsbourg aussi.
Il y a cette magnifique vidéo où vous dansez presque,
oui,
avec Gainsbourg.
Tout à fait, oui.
On aura traversé une vie de femme. Au-delà des hauts et des bas, Anna Karina, c'est la femme qui rétablit les intensités, qui n'hiérarchise pas les moments et qui vit au présent. Elle est donc retrouvée l'éternité. Avant la nuit, je dis merci à Boris Pinault, à Delphine Lemaire pour la réalisation, merci à la technique, à Bruno Mourlan et Mathieu Leroux, merci à Brigitte et merci à Henri du restaurant La Muraille de Jade à Saint-Germain-des-Prés à Paris.
Tout ne pense plus à rien.